aujourd'hui, mais tout de suite, rendez-vous avec Nathalie Barge.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
Parole de femme.
Au Togo, permettre aux femmes et aux enfants en détention de poursuivre une formation en ligne, tel est le pari de Smartboard, un dispositif éducatif mis en place dans certaines prisons. Un reportage d'Amena Signon à Lomé.
Mettre à disposition un outil qui permet de dispenser des cours à distance. C'est le but visé par le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo et ses partenaires, à travers la mise en place du Smart Board dans les centres pénitentiaires du Togo. C'est un outil de projection qui se connecte à l'aide d'un câble HDMI à un ordinateur. Avec ce dispositif, formateurs et apprenants peuvent interagir sans être en contact physique. Le dispositif bénéficie pour l'heure à la prison civile de Kalimé et au centre d'accès au droit et à la justice pour les enfants à Lomé. Ghislain Nyakou, le directeur exécutif du CACIT.
Nous avons voulu apporter des réponses numériques aux restrictions liées à la COVID-19, l'interdiction des visites et les détentions par les ONG qui vont donner les formations. Et puis la question du maintien des distances. Et donc, nous avions pensé mettre en place ce dispositif pour les ONG ou tout autre acteur qui le désire être entré en contact avec les enfants, venir pour faire des formations à distance, échanger avec les personnes en détention.
Ce dispositif répond à la problématique de la formation des détenus et contribue à la réponse nationale au COVID-19 au sein des prisons civiles et des centres de détention pour enfants au Togo. Il permet notamment aux femmes et aux enfants en détention de poursuivre, à travers des programmes éducatifs, les formations en ligne sans connexion Internet. Princesse Assia, responsable du Centre d'accès au droit et à la justice pour enfants.
Pendant le Covid, il y avait des restrictions et des mesures barrières prises par les autorités. Et les partenaires n'avaient plus accès au centre. Et l'équipe du centre seule avait cette lourde charge de suivre son programme éducatif. Et c'est en ce moment que ce dispositif est arrivé, le Smart Board, a beaucoup été une réponse pour nous.
À terme, ce projet vise à rendre disponible un curricula de formation adapté, validé par les autorités au profit des centres de détention du Togo. Amena Signon, Lomé, pour la VOA.
Armés de téléphones mobiles, de trépieds et d'ordinateurs portables, l'équipe de Bilan Media, une start-up somalienne entièrement composée de femmes, a pour mission de briser le silence autour de la violence sexiste en Somalie. Cette petite agence financée par le Programme des Nations Unies pour le Développement opère dans les bureaux de Dalsan, un média populaire à Mogadiscio. Les précisions avec Dili Diko.
Nasrin Mohamed Ibrahim est la rédactrice en chef de Bilan Media, une start-up entièrement féminine couvrant des sujets que personne ne veut raconter. Elle parle des femmes.
Chez Bilan Media, nous nous concentrons sur les histoires qui sont cruciales pour les communautés somaliennes dans lesquelles nous vivons. Ces histoires traitent d'expériences que les gens pensent être normales, mais ce sont des problèmes qui ne font pas l'objet d'une investigation approfondie. Si cela pouvait être recherché et diffusé, alors nous pourrions trouver des solutions pour l'avenir.
Les 6 femmes journalistes qui travaillent chez Bilan sont en charge de toutes les étapes de la production, du tournage à l'interview, en passant par le montage. Leur couverture reflète ce que c'est que d'être une femme dans ce pays conservateur. Et elles font de nombreux profils de femmes somaliennes connues. Mais environ 80% des vidéos qu'elles produisent portent sur des sujets tels que la violence sexuelle et domestique. Choukri Mohamed Abdi est l'une des journalistes de Bilan Media.
En tant que femme journaliste somalienne, nous encourageons et défendons les droits des femmes sans voix.
La Somalie n'a pas encore adopté son premier projet de loi sur les infractions sexuelles. Il est en préparation depuis près d'une décennie. Les auteurs sont rarement poursuivis et les victimes peuvent parfois faire face à des critiques. Il est donc difficile de faire parler les femmes. Fadouma Abdulkadir Hassan est fan de Bilan Media.
C'est une excellente start-up pour la société, en particulier pour les femmes. Elle essaie de couvrir les besoins des femmes car elle donne la parole aux sans-voix et se concentre sur les histoires de femmes vulnérables. Je pense que c'est vraiment important en ce moment.
Les journalistes de Bilan travaillent dans les bureaux de Dalsan, une station de télévision et radio populaire basée dans la capitale somalienne. Mais à Bilan, les choses sont faites un peu différemment. À nouveau, Nasrin Mohamed Ibrahim, rédactrice en chef de Bilan Media.
Bilan est différent des autres stations radio et télévision locales. Nous proposons des sujets très peu couverts et notre objectif est de sensibiliser aux problèmes sociaux. Nous nous concentrons également sur les vidéos filmées sur des téléphones mobiles. Au fur et à mesure que le monde se développe, nous nous attendons à ce que les caméras disparaissent. Nous voulons évoluer avec notre temps.
L'agence Bilan a été lancée en avril 2022 et l'équipe affirme qu'à ce jour, la réponse du public a été positive et encourageante. Dans un monde dominé par les hommes, ces femmes journalistes aspirent au changement.
En Afrique du Sud, un groupe d'entrepreneurs dénommé Solar Sister aide les femmes et les filles à accéder à l'énergie solaire et à devenir indépendantes financièrement. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus.
Esther Ayeni, propriétaire d'une entreprise, fait la démonstration de ses produits solaires à des femmes nigérianes. De nombreux ménages ne disposent pas d'une alimentation électrique fiable. Ces produits proviennent d'un groupe à but non lucratif appelé Solar Sister, qui aide des femmes comme Ayeni à gérer une entreprise d'énergie propre et rentable et donne aux clients l'accès à l'énergie renouvelable. Ayeni utilisait autrefois des lampes à pétrole et des piles sèches pour éclairer sa maison et sa boutique. Maintenant, elle utilise l'énergie solaire et vend ses produits à des clients d'Abuja et d'autres communautés.
J'apporte mes produits aux femmes, même dans les régions les plus reculées. Elles me payent les produits en plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient entièrement payés. Cela les aide. Chacune d'entre elles profite de la lumière.
Aujourd'hui, Solar Sister compte environ 2000 femmes entrepreneurs travaillant dans les communautés locales de 27 des 36 États du Nigeria.
Cela fait 8 ans que nous avons démarré une innovation et que nous essayons de voir comment le genre et l'énergie sont liés et comment nous pouvons tirer parti du fait que les femmes sont à l'avant-garde de cette transition vers une énergie propre.
Aïchetou Ndanouza a rejoint le groupe l'année dernière avec seulement $80. Elle dit que son entreprise vaut maintenant environ $3000.
Cela nous aide beaucoup. Cela a beaucoup changé nos vies. Même mes enfants, mon mari et moi. Honnêtement, beaucoup de choses ont changé.
Près de la moitié de la population africaine est confrontée à une grave pénurie d'énergie, selon l'Agence internationale de l'énergie. Elle affirme que le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie sont les pays africains les plus touchés par la pauvreté énergétique et que les femmes en supportent le fardeau. L'expert en énergie Odayon Omamfoman affirme que les autorités s'efforcent d'atténuer le problème.
Beaucoup d'investissements vont dans tous les secteurs, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va être instantané. C'est la conséquence des années, des décennies de non-investissement, de mauvaises politiques gouvernementales. Gardez à l'esprit que le monde sort d'une situation de confinement où les prix du pétrole étaient négatifs.
L'Agence internationale de l'énergie soutient que l'Afrique pourrait obtenir un accès universel à l'électricité d'ici 2030 en investissant $25 milliards par an dans le système énergétique mais surtout dans l'énergie propre. Mais en attendant, les entrepreneurs de Solar Sister continuent de convaincre davantage de femmes.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
L'industrie de la technologie emploie depuis longtemps principalement des hommes dans des rôles techniques. Un groupe à but non lucratif à Seattle, dans l'état de Washington, essaie de changer la donne en impliquant plus de femmes dans une spécialisation de la filière technologique. Un reportage de Natacha Mozgovaya, relaté par Ginny Niwa.
Rebecca Muniz voulait être ingénieure quand elle était plus jeune, mais ne se voyait pas comme ayant une carrière dans l'industrie de la technologie.
J'étais principalement entourée d'hommes blancs et je ne me sentais pas vraiment à l'aise.
Aujourd'hui, Muniz, qui travaille dans la communication, est étudiante à l'ADA Developers Academy, une organisation à but non lucratif de Seattle. Elle forme des femmes issues des groupes sous-représentés dans la tech. En 6 mois, ces étudiants apprennent à devenir développeurs de logiciels, formation suivie d'un stage. La directrice de l'académie, Lorraine Sato, affirme que l'organisation a une grande vision de ce que signifie le succès.
Nous sommes en mesure d'avoir un impact significatif sur le nombre de femmes et de personnes de diverses identités de genre qui entrent dans l'industrie chaque année.
Partout dans le monde, des formations intensives de type bootcamp ont décollé, promettant à ceux qui souhaitent percer rapidement dans l'industrie technologique des compétences commercialisables. Certains des programmes ont eu des résultats mitigés, offrant des opportunités d'emploi trop prometteuses et facturant des frais élevés. Mais chez ADA, les cours sont gratuits, la garde d'enfants est assurée sur place, mais le taux d'admission est faible et l'expérience peut être difficile.
Honnêtement, j'ai pleuré. Il y a des moments où vous rencontrez une erreur pour laquelle vous ne savez pas quoi faire.
Les cours sont à temps plein et beaucoup jonglent avec les familles. Ali Ibarra était professeur d'études sociales.
Ma plus grande peur est l'échec. Je pense que c'est un gros risque que je prends dans des carrières qui pivotent.
Depuis sa création en 2013, ADA a eu plus de 300 diplômés. 80% ont trouvé un emploi dans la technologie, selon l'organisation. Mais pour de nombreux étudiants, il ne s'agit pas seulement de décrocher un emploi, mais de changer l'industrie technologique une fois qu'ils sont à l'intérieur.
S'assurer que je ne suis pas la seule femme de couleur à table.
Le bootcamp, qui se développe à l'échelle nationale, considère chaque diplômé comme un catalyseur possible de changement.
Si jeunesse pouvait.
Les autorités togolaises s'attellent au phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire. Le gouvernement a adopté un projet de loi visant à renforcer l'arsenal juridique. Notre correspondant à Lomé, Kossi Wosu, nous en dit plus.
Il existe au Togo des textes réprimant les auteurs des grossesses des jeunes filles qui sont encore sur les bancs des écoles. Malgré l'existence d'une loi répressive, le phénomène persiste. Il faut réagir et agir vite, dit Akoda Ayewadan, le porte-parole du gouvernement.
On peut citer des chiffres. Hein. 2020-2021, c'est près de 1747 grossesses en milieu scolaire. Et cette situation n'est plus tenable. Le gouvernement a choisi de renforcer l'arsenal existant. Donc aujourd'hui, on a un projet complet qui va d'abord dans le préventif, ensuite propose un accompagnement et également des sanctions.
Ces intentions sont louables, estime Innocent Diaro Agbeka, président de l'association des parents d'élèves qui a dirigé l'atelier de la validation du projet qui a réuni tous les acteurs de l'éducation.
Le constat de la grossesse en milieu scolaire est vraiment amer. On a constaté que les années passées, on a déchiffré jusqu'à 5000 grossesses. Vraiment, il doit falloir qu'on prenne une position pour pouvoir juguler ce mal qui gangrène la jeune fille togolaise. C'est pour ça que nous avons franchement adhéré à cette décision.
Francis Pedro, un acteur politique, lui, réclame plutôt des actes que des paroles.
C'est maintenant que le gouvernement voit qu'en milieu scolaire, là, il y a trop de grossesses. Je me souviens dans les années 77, le gouvernement du Togo a pris un décret pour envoyer en prison tout enseignant qui engrosse une élève. Et puis après, bon, maintenant que le gouvernement veut faire quelque chose, bon vent, il ne sert à rien de parler. Il faut agir.
Pour Mireille Bossou-Souedjede, directrice exécutive de l'association Précieux Trésors de Vie qui mène des actions de sensibilisation sur le terrain, la loi est peut-être nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour juguler le phénomène.
C'est une loi que le gouvernement veut prendre. Nous prenons d'abord ça comme un éveil de conscience pour dire alerte, attention, il se passe quelque chose, il faut qu'on agisse. Maintenant, est-ce que la loi en elle-même protège assez les filles pour qu'elles ne tombent pas enceintes? Je reste quand même un peu dubitative. Je pense à mon niveau que on doit repenser l'éducation sexuelle.
Dodi Kokoroko, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, a le triomphe modeste et reconnaît aussi que la loi ne pourra pas tout régler. Il nous faut des réponses adaptées face à ces phénomènes. Il faut une véritable révolution des mentalités, a-t-il dit. Kossi Wutsu, Lomé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la saison des pluies crée des petits métiers. Dans les rues d'Abidjan, l'hivernage marque la présence de jeunes vendeurs de parapluies, de chaussures en plastique et même de très jeunes laveurs de pieds. Un reportage de notre correspondante Delphine Boys.
Se rendre au marché pour faire ses emplettes et se retrouver à la sortie avec les pieds sales, recouverts de boue, n'est pas très commode. Pour se faire un peu de sous, des jeunes se sont reconvertis pour l'occasion en laveurs de pieds. Un marché de bananes de la commune de Yopougon, peu après la pluie, les allées sont envahies par toutes sortes de détritus mélangés à la boue. À la sortie du marché, de petits laveurs de pieds âgés de 12 à 14 ans, pour la plupart déscolarisés, crient à intervalles réguliers.
Quand ils lavaient les pieds ici,
ils offrent leur service à ces femmes qui n'ont pas d'autre choix en sortant du dépotoir. Assis sur un banc, en bordure de route, devant la principale sortie du marché, ces jeunes tiennent leur commerce en plein air. Avec deux seaux en plastique, l'un contenant de l'eau savonneuse avec des éponges pour laver les pieds et l'autre pour rincer. Des gestes qui sont répétés à longueur de journée, mais à la fin, le compte est bon. Oumar, 14 ans, est superviseur d'un groupe de 5 petits laveurs de pieds.
Comme ça, nous faisons pour cette double bouquet. Nous pouvons gagner 5 000, 10 000, souvent la 2 000 et 3
000
aussi.
En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, ce sont souvent les femmes qui vont faire les courses au marché. Ici, le seul homme que nous avons rencontré n'a pas voulu dire son nom.
Ce sont des enfants, mais on n'a pas le choix.
Sidibé, lui, a 20 ans. Il est aussi un concurrent des tailles à côté des autres petits laveurs de pieds.
Les gens tirent dans la boue, là, et là, ça ne les arrange pas. Donc, eux veulent que leurs pieds soient propres. Moi aussi, là, je dois laver pour que eux aussi, ils prennent 100 francs pour me défendre. Maintenant, t'arrêtes ta chaussure.
Un autre phénomène de saison, c'est la vente de parapluies. La gare nord d'Adjamé, qui abrite la société de transport abidjanais Goyu de Monde, juste en face de la gare routière, sont installés vendeurs et vendeuses de parapluies dans Rokia Ouattara.
Quand il pleut, la parapluie, là, ça marche. Parapluie de 2000, là. C'est quand il pleut, là, tu dis 2000, là, il prend parce qu'il a peur de la pluie. Il prend en même temps, il s'en va.
Et Serge Kobena Kwasi, sans évoquer son gain quotidien, affirme que l'activité est rentable.
Oui, maintenant, ça marche plus.
Mariam Diakité aussi se dit satisfaite.
Si ça a fini là, il gagne pour toi.
Les vendeuses de chaussures en plastique aussi se frottent les mains. Au marché Gourou d'Adjamé, la commune commerciale d'Abidjan, elles écoulent leurs marchandises.
Je fais ça au port. S'il y a la pluie comme ça, l'apprenti, et puis ceux qui travaillent là, c'est eux qui payent. Parce qu'il y a les loups, ça, ça marche.
Les femmes qui veulent aller au marché dans tant de pluie, ils veulent protéger leurs pieds, n'ont qu'à porter leurs bottes.
En plus des bottes, les chaussures en plastique, communément appelées lesquelles, sont de plus en plus utilisées. Il y en a de toutes les couleurs. Même les jeunes filles, plutôt coquettes, en profitent pour changer ou adapter leur mode vestimentaire.
On peut adopter plusieurs styles avec. Pour ceux qui sont
sont vraiment in and swag. Ça passe pour taper des styles un peu chic.
C'est dire que ces gagne-petits peuvent, le temps d'une saison, se faire quand même un petit pactole. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Entre parenthèses.
Seulement 10% des mairies dans le monde sont gérées par des femmes. Par exemple, au Sénégal, seuls 18 maires sur 558 sont des femmes. En France, seulement 20% des départements sont présidés par une femme. Et aux États-Unis, seulement 22% des maires de villes de plus de 30 000 habitants sont des femmes. Selon l'Union interparlementaire, pas plus d'un quart des parlementaires dans le monde sont des femmes, avec de grandes disparités entre pays et régions. Au 1er janvier 2021, seuls 3 parlements comptaient au moins 50% de femmes, à Cuba, aux Émirats Arabes Unis et au Rwanda. Le Rwanda qui a aussi atteint la parité au sein de son gouvernement, comme l'Éthiopie. Les femmes exercent les fonctions de chef d'État ou de gouvernement dans seulement 22 pays et 119 pays n'ont jamais été dirigés par une femme. Nous refermons LMF sur le commentaire d'un fidèle auditeur de VOA Afrique sur ce sujet, Alphonse Mwaki à Kinshasa.
Dans cette question de la vraie parité entre hommes et femmes, il faut de la volonté politique au niveau des nations et au niveau international. Plusieurs facteurs jouent en défaveur d'une meilleure représentation des femmes dans la vie publique. Les pratiques culturelles qui perpétuent stéréotypes et préjugés, l'éducation politique et civique biaisée, ainsi que les responsabilités traditionnelles dans la sphère privée, sont autant d'obstacles à l'entrée d'un plus grand nombre de femmes dans les milieux politiques. L'égalité des hommes et des femmes dans la vie politique est une condition de la pleine réalisation de la démocratie. Elle doit être considérée comme telle et non comme une hypothèse lointaine et facultative. Des oppositions existent à travers le monde à la consécration d'une démocratie paritaire permettant l'égale présence des hommes et des femmes dans la vie politique. Certaines oppositions doivent être combattues car elles constituent un obstacle sérieux à la reconnaissance d'un plus grand rôle aux femmes. Dès lors, des actions positives en leur faveur dans la vie politique ne peuvent qu'établir une égalité réelle qui n'a jamais existé. Une telle égalité ne saurait exister si la moitié des composantes de la société est systématiquement sous-représentée. Cette sous-représentation a d'ailleurs pour effet d'hypothéquer la légitimité même des instances élues dont la composition s'écarte de celle de la société, créant dans cette direction les fossés entre les citoyens et les représentants. Une présence plus importante des femmes dans la vie politique pourrait enrichir les débats démocratiques et les faire bénéficier d'expériences et d'approches nouvelles et complémentaires dans tous les domaines. Il est important de remarquer en effet que ces différences peuvent s'exprimer sur l'ensemble du champ politique et non exclusivement dans des matières sociales, entre parenthèses famille et santé, où les femmes sont trop souvent cantonnées. C'est enfin pour l'ensemble des femmes composant la société qu'il importe d'avoir des élites conscientes des particularités de la féminité. En effet, les différences de fonctions, de socialisation des femmes et des hommes supposent que des élites femmes puissent prendre en compte au plan politique les particularités de la situation des femmes. C'était donc Alphonse Mwaki de Kinshasa.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.